exemple que nous a présenté Annabelle est vraiment le type même de choses qui sont pointées, de ces objets stigmatisés dans l'idéologie du développement durable. La zone pavillonnaire en périurbain qui a tous les maux, puisque évidemment elle est loin du centre. Voilà. Donc, c'est, ce qui est intéressant dans ce que vous avez fait, c'est bien évidemment de remettre en cause les évidences, c'est quand même notre boulot, et de montrer que, ben oui, ce périurbain comme la ville se fait sans décision étatique et bouge. Alors, troisième point, c'est aussi ce que vous souleviez en fin de votre intervention, c'est quand même de l'urbanisation sauvage. Alors, c'est quelle urbanisation, quel périurbain on est en train de préparer avec ces petits lieux, ces recoins, est-ce que c'est de cette manière-là qu'on va loger tout le monde, hein, en mettant...
Il ne s'agit pas que ce soit une solution...
Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi un désengagement des politiques publiques? Enfin, on peut le voir comme étant une autonomie de ces territoires-là et leur redonner des lettres de noblesse, mais d'une autre manière, est-ce que... en se désengageant totalement, les politiques publiques ne laissent pas faire des choses dont vous avez parlé en dernier. Mmh.
Voilà. Je suis d'accord, je pense que justement, les deux, à la fois surveiller un peu ces choses-là, mais sans trop les empêcher, et en même temps, on peut très bien avoir des processus de ce type-là, à côté d'opérations portées par l'action publique. Il ne s'agit pas, c'est pas l'un ou l'autre, quoi.
Oui, mais on a toujours, sur des actions comme ça, on a toujours des doubles...
Il y a toujours des effets pervers.
Des doubles registres.
Effets pervers sur les opérations étatiques aussi.
Oui, c'est vrai. Oui.
Mais on est dans le même type de situation que pouvait être tout ce qui a été interrogé en termes d'empowerment, par exemple. Les gens prenaient en charge leur destin, enfin bon. Mais en fait, c'était une manière de leur laisser faire le boulot et de se désengager. Donc je pense qu'on est aussi sur des tensions de ce type-là.
Bonjour, Madame Louis.
Si.
Je t'entends aussi, j'avais juste une question. J'ai interprété quand vous avez dit que ça n'allait pas plus loin que la discussion au-dessus du grillage entre voisins. Finalement, il n'y a pas eu d'action collective par rapport au permis. Est-ce que c'est pas parce que finalement ces habitants n'avaient pas tout simplement les moyens de se mobiliser en fait?
Alors en fait, c'est ce que je me suis dit, mais j'ai tellement gratté pour essayer de trouver du nimby que j'ai fini par en trouver, je vais vous dire dans quel cas, de ce quartier. Donc ils ont bien été capables de faire du nimby là, mais pas pour la densification, c'est pour le prolongement de l'autoroute à 11. Il y avait un tronçon manquant, et là en fait... La coupe, ils ont fait une association qui s'appelait Cactus. Donc, les habitants, pour demander, exiger, avec des recours, enfin vraiment très organisés comme il faut, et ils l'ont obtenu d'ailleurs, la couverture de l'autoroute à 11. Donc, toute cette partie-là est couverte maintenant. Alors qu'au départ, dans le projet, il était question de faire une autoroute à ciel ouvert. À cet endroit-là, alors qu'elle est couverte plus loin. Donc ça demandait beaucoup d'argent, parce qu'il faut savoir que la couverture d'une autoroute, même d'un tronçon comme ça, de 7 km, ça coûte très cher. Voilà. Donc en fait, c'est pour dire que je n'ai trouvé aucune attaque de permis. J'ai vraiment essayé de tirer les verres du nez, même aux élus, à la responsable des permis. Je suis allée voir différents pour essayer de croiser les choses, pour voir si en fait ils n'essayaient pas de me dire « Mais non, tout va bien ici, la densification se passe super bien. » Mais en fait, non, il n'y a vraiment pas eu de choses. Mais par contre, ils sont capables de se mobiliser pour couvrir l'autoroute qui borde le lotissement, hein, quand même, là.
Mais c'est uniquement des ressources propres au bois du roi ou ils se sont
arrivés? Non, c'est que le bois du roi, parce qu'en fait, de l'autre côté, c'est Angers.
D'accord.
Et en plus, c'est une zone qui est moins habitée. Là, il y a des endroits qui sont moins habités. Alors que là, c'est vraiment les pavillons, ils sont juste là. Maintenant, il y a un parc par-dessus la couverture de l'autoroute.
Et du coup, est-ce que c'est pas parce qu'eux-mêmes ont déjà bénéficié, parce que je ne sais pas, les inquiétés que vous avez rencontrées depuis combien de temps ils étaient dans la région, est-ce que aussi l'acceptation n'a pas du fait qu'eux-mêmes ils ont bénéficié par le passé du système BRD, je vous disais
Oui, maintenant le système BRD, c'est très ancien, c'est dans les années 30. En fait, les gens se sont lotis, c'était des engagements de l'État total sur la construction des premières tranches des lotissements. Et donc, en fait, l'État n'est pas intervenu jusqu'au moment où ça a fait un tel scandale qu'ils ont fini par faire une loi pour effectivement, en partie, aider ces gens à viabiliser leur terrain.
Les enquêtes que vous avez rencontrées.
Mais j'en ai toutes les époques. J'en ai des Anglais qui ont emménagé récemment depuis moins d'un an. J'ai des gens qui sont là, qui ont connu les champs de fraises, etc. Donc qui étaient là dans les années 40, 50. Et j'en ai de toute ancienneté. J'ai des gens qui sont nés là, qui sont partis habiter ailleurs, qui sont revenus. J'ai des gens qui viennent de province, qui ont emménagé là une fois, puis dans une autre maison. Et à vrai dire, de toute façon, c'était viabilisé depuis longtemps, là, déjà, dans les années 50.
En fait, il y a une historique de transmission de pavillons.
Il n'y avait pas de... Non, la presse, la transmission, elle va bientôt se faire, mais elle va bientôt se faire parce que c'est un lotissement qui est très vieux. Très vieillissant, pardon. C'est un lotissement qui est très vieillissant. Donc, actuellement, il y a beaucoup de gens qui vont... mais pour l'instant, il y a assez peu de transmission. En général, c'est des ventes. Ça ne reste pas dans la famille. Hein. Il n'y a pas de patrimonialisation. Enfin, peu.
Juste deux petites questions courtes. Très courtes. Le parc par-dessus, la couverture de l'autoroute, ça a été demandé par les habitants ou comment, pourquoi ils ont fait?
Alors, ils ont mis la...
Deuxième petite question. Si j'ai bien compris, il n'y a pas d'attrait financier à la vente, mais si je comprends mieux aussi, il n'y a même pas eu de perte, de peur de perdre de la valeur immobilière sur son bien. Parce que moi, j'ai une maison, j'ai un jardin, et là, on fout un bâtiment en face, je me dis, je vais perdre 20% de la valeur.
Ça, c'est pour les collectifs. C'est ça, pour la question des collectifs.
Il y a eu le collectif qui était...
Mais en l'occurrence,
au-dessus de la bonne femme.
Voilà, alors, mais en fait, il faut savoir que ça, c'est au bois du roi. Alors, au Coudreau, il n'y a pas les collectifs, le règlement d'urbanisme est un peu plus vissé, un peu plus serré au Coudreau qu'au Bois du Roi. D'abord, le minimum parcellaire est toujours bas, mais un tout petit peu plus haut. Il est à 500 mètres carrés, donc parfois de 10 sur 50. Et ici, au Bois du Roi, c'est 300 mètres carrés. Et le règlement est un peu plus souple, c'est-à-dire qu'il autorise des petits collectifs, ce qui n'est pas le cas au Coudreau. Donc pour la construction des petits collectifs, la question au Bois du Roi, c'est que le permis de construire est très ancien, il a été commencé il y a très longtemps, et en fait entre le moment où ça a été commencé, et ça c'est quelque chose que j'ai pas pu développer, mais qui est quelque chose d'hyper important, c'est que je me suis aperçue que quand il y a des projets d'ampleur, le fait que les projets traînent en longueur favorise leur acceptation, évidemment. C'est-à-dire que finalement on s'habitue, on oublie, ah oui c'est vrai, mais ça va. Et en fait, dans la mesure où les élus ils ont les moyens, quand ils ont les moyens de faire traîner en longueur des trucs comme ça, ça peut favoriser l'acceptabilité sociale de ces projets. Et par ailleurs, il faut savoir que là, au Bois du Roi, à cause de l'arrivée du tram, ils peuvent pas perdre de valeur, parce que même avec un collectif, il y a le tram, et donc ils vont plutôt avoir un gain. Un gain ou au moins un effet zéro, quoi.
Oui.
Et par rapport au parc, c'était quoi? Oui, ça a été une demande des habitants ou de la mairie, je ne sais plus, j'ai un peu oublié les détails. Mais il faut savoir qu'ils ont...
Hein? C'était juste par curiosité. Hein?
Non, je crois que c'est la mairie qui a fait, dans un geste magnanime, aller chez un parc dessus.
Moi, je voulais faire le lien avec la question d'énergie. Dans la fameuse idéologie du développement durable, la densification, elle est aussi reliée à la question de la sobriété énergétique. Et donc, déjà, je trouvais intéressant le fait de montrer qu'en effet, il y a une densification spontanée, notamment sur le plan énergétique, la densification humaine, parce qu'elle permet finalement un partage des coûts au niveau de chauffage, etc. Parce qu'on sait que ces pavillons, très souvent, ne sont pas performants du point de vue énergétique. D'ailleurs, question de ma part, est-ce que c'est des endroits où on avait un réseau gaz, par exemple, ou est-ce que tout était chauffé à l'ILEC? Et alors, par contre,
De toute façon, c'est très disparate, les choses ne sont pas assez. Attention, ce sont des lotissements, hein, ce ne sont pas des groupements d'habitation. C'est un quartier, c'est des lots fonciers, c'est une opération de division. Un lotissement, c'est une opération de division foncière. On vend des lots de façon séparée. C'est pas un découpage et une vente à un promoteur-constructeur. Donc, c'est que des choses qui sont construites de façon toute isolée, les maisons. Elles n'ont pas été construites ensemble. C'est le découpage foncier qui s'est fait par tranche et après on a vendu les parcelles.
Donc, ce que tu veux dire, c'est que les systèmes d'énergie utilisés sont totalement.
Oui, ils sont autonomes, quoi. Enfin, les uns par rapport aux autres,
en fonction aussi des dates de construction des maisons.
Oui, voilà, c'est ça, c'est en fonction des époques et il y a vraiment des maisons de toutes les époques. Alors. Les plus vieilles ont été cassées parce que les plus vieilles étaient sur l'avenue Pierre Mendès France et avec le tram, ils ont rasé les plus vieilles maisons.
Donc le deuxième point, c'est que c'est vrai que du coup, ce que ça ne règle pas, c'est la question du transport, puisque justement c'est aussi un problème, notamment pour ces zones pavillonnaires, dans l'optique. D'une augmentation des prix de l'énergie, c'est sûr que le fait que voilà, ça met en difficulté, on parle de vulnérabilité énergétique au périurbain, les ménages qui sont plus ou moins contraints de prendre la voiture, et là on revient sur la question du stationnement, etc., qu'il y a quand même un attachement à l'automobile qui est fort, et donc. On parlait aussi d'aménités urbaines qui accompagnaient la densification par le haut. Est-ce que voilà une manière de peut-être d'accompagner cette densification par le bas pour le pouvoir public ne serait pas de renforcer les réseaux de transport?
Donc,
ma question était, est-ce qu'il y a une action au niveau des collectivités locales, une préoccupation? J'ai vu que vous avez interviewé des acteurs locaux. Est-ce qu'il y a une préoccupation pour ces questions-là de transport et de renforcer l'efficacité du transport collectif?
C'est-à-dire, pour le Cadavrier, donc pour le Bois du Roi ici, la réponse elle est toute trouvée hein, pour les élus, puisqu'il y a le tram, donc il y a le transport collectif, et il y a une station tram là qui s'appelle le Bois du Roi. Donc il est relié en quand même assez peu de temps. Enfin, au centre d'Angers, j'entends. Et évidemment, autre cas de figure qui n'a rien à voir, le cas des Coudreaux. Alors là, les Coudreaux, de toute façon, il n'y a pas de projet urbain majeur. Il y a des projets de rénovation, un peu de résidentialisation des résidences HLM, projet de résidentialisation des ensembles HLM. Il y en a une qui est réalisée. Ça plaît beaucoup aux habitants. Les habitants autour sont très contents et les habitants dedans sont très. L'autre est prévu, et il y a juste ça de prévu. Et l'aménagement, parce qu'ils roulent tous comme des. Effectivement, très très vite au Coudreaux, c'est. Pourtant, je fréquente beaucoup, enfin, j'ai beaucoup conduit dans le périurbain, mais là, j'ai jamais vu des vitesses comme ça dans les zones périurbaines. Donc, effectivement, ils aménagent plein de. Les élus locaux, ils aménagent des trucs pour ralentir les voitures, en fait. Des toutes sortes, vous savez, tous les aménagements qu'ils font pour. Ralentir les vitesses. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, mais le problème, non, la performance, c'est ce que je disais, au Coudreau, il faut être bien autorisé. ou alors il faut avoir le temps. Il y a des bus, hein, j'en ai, je les ai pris, j'ai vu comment ça se passe. Moi, ça va, quand on prend un direct, c'est 20 minutes pour arriver jusqu'à la gare RER. Alors, il faut savoir que c'est 5 minutes en voiture. C'est 5 minutes en voiture. Vous traversez la plaine, là, du nord-sud, et puis, voilà, 5 minutes. En bus, un bus direct, 20 minutes. Le bus du matin, ceux qui sont aux horaires et tout, parce qu'il est omnibus, il passe dans tout, donc il fait tout le long du lotissement. Ce qui fait qu'il est omnibus, il met 3 quarts d'heure pour arriver au RER. Donc c'est juste pas possible. C'est le côté de la performance, ça fait pas le poids par rapport à la voiture. J'ai essayé d'en parler avec les élus, mais je crois que sur les questions de transport, les élus, ils sont un peu bloqués. C'est-à-dire, les gens, ils disent, bah oui, mais on fait on fait de l'omnibus pour desservir toutes les zones, mais du coup, c'est plus performant. Ou alors, on ne fait pas de l'omnibus, mais il faut déjà que les gens ils se rendent. C'est un lotissement, juste la zone entourée, ça fait 7000 habitants. Hein. C'est 7000 habitants, juste la partie en rouge. Là. Donc, pour aller d'un endroit à l'autre à pied, ce n'est pas possible. Donc, il y a quelque chose, mais c'est une problématique même qui ne concerne pas que le périurbain, sur la performance des manières de desserte et de rentabilité des transports publics, c'est quelque chose.
Oui, bonjour. Je voulais vous demander si donc vous parlez de l'acceptabilité sociale de la densification par le bas, mais est-ce que dans ces cas-là, la question se pose vraiment en ces termes, au sens où finalement c'est quelque part une densification un peu imposée, au sens où les populations n'ont pas voix au chapitre, soit parce qu'elles ne se sentent pas légitimes, mais aussi parce que voilà, elles ne se sentent pas en mesure d'accepter ou non cette densification, soit parce que ça les regarde pas, soit parce qu'elles n'ont pas cette culture de monter un dossier, de s'opposer, etc., sauf dans des cas comme le recouvrement de l'autoroute. Mais voilà, est-ce que c'est vraiment de l'acceptation de la densification qui est en jeu et, voilà.
D'ailleurs, en fait, je ne parle pas, moi, enfin, j'ai utilisé à un moment l'acceptation, mais je ne parle pas d'acceptabilité. Mon terme, c'est la réception sociale. Donc, cette voie, comment les choses sont perçues, reçues, entendues, comment les gens réagissent par rapport à ça, qu'est-ce qu'ils en font. Moi, je dirais que la question de l'acceptabilité sociale, ça intéressait peut-être les porteurs du projet Bilby qui voulaient savoir comment trouver des moyens de convaincre la population que c'était quelque chose de très bien, les maires et tout ça. Mais en réalité, moi j'ai fait exprès, j'ai travaillé pas sur l'acceptabilité sociale, parce que je trouve que mon rôle n'était pas là, mais sur la réception sociale de ce.
S'il y avait une question, juste une chose, ce qui est intéressant dans cette présentation, c'est que ça touche à la propriété. C'est-à-dire que quand même, depuis la première présentation de ce matin, où on a parlé des communs, et où on en fait finalement. Un autre modèle de développement, un modèle alternatif, même si là c'est son histoire. On oppose d'un côté, là en l'occurrence, la propriété, qui finalement interdit quasiment la mutation des territoires, et de l'autre, des communs qui seraient le partage, etc., etc. Et quand même, la question de l'acceptabilité sociale, elle pose la question de la propriété. De la propriété telle que vous l'avez exposée, mais aussi de la propriété de soi, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut décider de l'endroit où on vit, de ses actions, etc. Ça pose quand même cette question-là. Et est-ce que, entre le modèle du commun, autogéré, partage, etc., d'un côté, et le modèle du pavillonnaire, on aurait deux pôles, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres modèles, peut-être, qui sont à monter finalement, dans lequel on n'est pas cette opposition entre une acceptabilité qui nous serait. On aurait une injonction à l'acceptabilité parce que moralement la survie de la planète est en jeu, donc on n'a pas, il n'y a pas à tortiller, c'est comme ça et autrement. Et de l'autre, une propriété de soi dans un système peut-être plus d'empowerment. Donc dans une vision peut-être un peu plus positive de l'empowerment à partir du moment où c'est articulé à des politiques publiques.
Oui,
c'est le débat qui était en sciences politiques. Pas, moi, je n'ai jamais travaillé là-dessus, mais je sais que voilà, il y avait une vision très positive et très négative aussi de l'environnement.